On a juste envie de rester dans la présence de Dieu. Il est tellement bon. On ne veut pas s'habituer à être touché et à être dans sa présence. C'est un privilège que le Saint-Esprit nous fait de quand on le loue, quand on l'adore, qu'il vienne, qu'il soit ici dans ces lieux, qu'il soit dans nos cœurs, qu'il soit dans nos vies. Et de des moments, un seul instant dans sa présence, ça vaut mieux que tout le reste, comme dit la parole. Et on a envie vraiment de se laisser toucher, de se laisser imprégner encore par lui ce matin. Et je suis tellement heureux d'être là pour partager non seulement mon cœur, mais je crois profondément que j'ai envie de partager ce qui fait battre le cœur de Dieu ce matin. Et ce matin, au-delà d'un bon culte, moi ce qui m'importe, c'est qu'on puisse entendre ne serait-ce qu'une fraction, une fraction du cœur de Dieu qui touche nos vies, qui marque nos cœurs. Ce qu'il fait vibrer, ce qu'il fait bouger, ce qui touche son cœur, ce qu'il désire pour notre temps, ce qu'il désire pour notre église, ce qu'il désire pour cette région, ce qu'il désire pour nos vies, pour ta vie, pour ma vie. Et avant de poursuivre, j'aimerais simplement partager une pensée. C'est comme un petit enfant, lorsqu'il va sur les genoux de son papa, et puis qu'il l'enlace, et puis qu'il pose sa tête contre son torse, il va entendre les battements du cœur du papa. Pour ça, il faut juste que l'enfant il se pose, qu'il arrête de courir dans tous les sens un moment, qu'il vienne vers son papa pour un câlin. Et ce n'est pas le moment où il va lui demander des bonbons, ou bien un deuxième 4 heures, mais c'est juste le moment où il va juste poser sa tête contre le torse, tout simplement. Et il va entendre les battements du cœur du papa. Il va les entendre parce qu'il ne joue pas, parce qu'il ne parle pas, mais tout simplement parce qu'il reçoit l'amour. Je crois que cette dernière pensée qui a aussi été donnée, il y a vraiment un appel de Dieu qui va dans ce sens où Dieu vraiment désire reconnecter vraiment avec son amour pour ta vie. Et je crois que Dieu veut vraiment parler à plusieurs dans ce sens. Déjà à chacun, je pense d'une façon ou d'une autre, par ce message, que ce soit par un bout ou l'autre, mais aussi par cette pensée. Et c'est tellement beau d'avoir un papa comme Dieu qui a créé tout l'univers, qui peut tout faire, qui sait tout, qui peut tout. Et c'est lui notre papa. C'est lui notre papa. Et quand l'ennemi vient vers nous, on peut dire, tu sais, mon papa, il est le plus fort. Quel privilège. Et je sentais vraiment l'encouragement de Dieu ce matin de vous partager le désir de ton papa que tu viennes sur ses genoux et puis que tu poses juste ta tête contre lui, contre son torse, parce qu'il a tellement envie de partager son cœur. Et comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout et il y a un temps pour s'activer, il y a un temps pour parler, répandre son cœur, demander des choses à Dieu. Mais là, ce qu'il désire, c'est que non seulement tu lui répandes son cœur, des fois que tu lui expliques dans un long monologue, des fois tout ce que tu as envie de lui dire, ce que tu vis, ce que tu comprends. Il désire non seulement que tu lui partages tous tes besoins, tes manques, les promesses que tu aimerais recevoir, mais il aimerait juste que tu puisses venir et multiplier ces temps juste de qualité, juste de tête à tête contre son torse. Et là, c'est le moment où des fois, même s'il aime quand on dialogue, c'est le moment où peut-être qu'il faut arrêter de parler, qu'il faut arrêter des fois de prier sans fin. Et c'est le moment juste où il faut arrêter de demander et juste d'être à l'écoute, juste contre son papa. Juste se laisser rassurer, se laisser aimer. Et c'est là qu'on va entendre battre son cœur. C'est là qu'on va entendre peut-être qu'il nous chuchote à l'oreille ce qu'il pense de nous, ce qu'il a envie de faire au travers de nous. Qu'on n'a pas de soucis à se faire pour le futur, qu'il est là, qu'on n'a rien à lui prouver. C'est juste l'endroit où il ne peut rien nous arriver. C'est comme un petit enfant, il ne peut rien lui arriver. Et il ne pense pas à demain, il est juste bien, dans les bras du Père. Et c'est là qu'on a tout ce dont on a besoin. C'est là que tu vas entendre son cœur, et c'est là qu'il va aussi placer dans ma vie, dans ta vie, une passion, un désir, un appel, quelque chose qui va venir dans nos cœurs. Et c'est vraiment de cette intimité que va naître dans ta vie qui tu as envie de devenir, est-ce que tu as envie de faire. C'est de là que ça va venir. Alors ce matin, qu'on puisse simplement se laisser toucher dans sa présence et son appel, de cette demande du papa vraiment simplement de multiplier ces moments-là. Alors il aime quand on prie, il aime quand on demande même avec insistance, mais il aime aussi quand on vient juste contre lui et qu'on écoute ce qui vibre dans son cœur. Alors tu peux continuer de lui expliquer toutes tes journées, même s'il les connaît déjà, parce que c'est ton ami et il aime t'entendre. Il aime voir comment tu vis les choses. Tu peux continuer de lui demander des exaucements de prière, de réclamer les promesses qui sont là pour qu'elles se manifestent, parce qu'il aime quand on fait appel à lui et il aime répondre à nos demandes. Mais il t'appelle aussi à ces moments intenses où tu es juste avec lui, ou t'arrêtes même de parler, t'arrêtes de penser à ce qu'il va faire, mais juste être à son écoute. Il y a un plus et il désire nous faire entrer vraiment dans ce plus avec lui. Et c'est la pensée que j'avais vraiment à cœur de partager. Je suis vraiment convaincu que c'est vraiment important pour nous faire aller plus loin dans la relation qu'on a avec lui. Mais aussi tellement important au vu du message que j'ai envie de partager ce matin. Parce qu'on va entrer dans un des derniers thèmes de l'année qui nous tenait à cœur de partager. Et ce dernier, on a différents points de mission au niveau de l'Église Passion qui nous tiennent à cœur. Et un des derniers, c'est vraiment d'entrer dans son appel. L'appel que Dieu a pour nous dans notre destinée, puis aussi de se multiplier. On a fait plusieurs semaines après l'été où on a parlé vraiment d'entrer dans cette culture du témoignage et de briller. Et maintenant, on aimerait poursuivre vraiment dans ce qui vibre dans nos cœurs, de rentrer dans notre appel. Et ce matin, je voulais surtout partager la notion de l'appel. Et dans un mois, ça sera, je pense, la suite, ça sera le deuxième épisode. Mais au vu du contenu ce matin, je trouvais que cette première pensée, c'était vraiment un fondement important. Entrer dans son appel, ce n'est pas juste entendre un ordre et on fonce tête baissée dans ce qu'il nous demande. Ce n'est pas non plus juste répondre aux besoins qu'on voit à gauche, à droite, mais ça commence par s'approcher du Père et écouter son cœur. Et c'est de là que va naître, dans notre cœur, aligné sur les battements du cœur du Père, ce qu'il désire pour nos vies, ce qu'il désire pour le monde et ce qu'il désire qu'on puisse faire. Ceux qui ont eu des enfants, vous avez pu voir le nombre de fois qu'un bébé, il est juste calmé, rassuré, quand il est tout petit, quand il pose sa tête sur le torse de sa maman ou de son papa, il entend son cœur. Et des études ont même montré que les battements du cœur peuvent se synchroniser. Donc si en tant que parent, on n'est pas hyper stressé, mais qu'on est calme, ça va calmer le bébé. Il est simplement là et il est calmé dans les bras. Et je crois que ce que Dieu veut pour nous, avant de nous dire « allez, allez », allez dans votre appel, rentrez, faites. C'est vraiment venez. Venez à moi. Venez sur mes genoux. Venez écouter mon cœur. Synchronisons nos cœurs. Recevez ce qui vibre dans mon cœur. C'est là qu'on va entendre ce que Dieu a pour nos vies, qu'on va synchroniser à lui. Et comme j'aime le rappeler, un bébé, j'apprends ça à personne, il naît de l'intimité entre un homme et une femme. Et je crois que de même, Dieu va faire naître en nous des rêves, va faire naître notre appel de cette intimité spirituelle qu'on a avec lui aussi. Alors c'était un peu mon introduction ce matin, mais je trouvais fondamental avant de dire faisons ceci, cela, vraiment de mettre ce fondement qui pour moi c'est vraiment quelque chose que Dieu veut nous rappeler. Il parle à plusieurs en particulier, mais je crois à chacun, parce que c'est vraiment un fondement important. Arrête des fois de parler au Seigneur, arrête de demander et écoute son cœur. Et dans la suite de cette pensée, j'aimerais dire quelques mots justement sur notre destinée. C'est des choses que j'ai peut-être déjà pu dire l'une ou l'autre fois, mais ça résonne tellement dans mon cœur que j'ai aussi envie de poursuivre là-dedans. C'est qu'il y a une intention et il y a un désir dès la création de l'être humain dans le cœur de Dieu. Avant toute chose, la première chose que Dieu a fait, c'est qu'il a créé la lumière. Et la lumière fut. Puis ensuite, il a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et il y a eu un ciel, il y a eu une terre. Et puis des fois, je dis, Seigneur, on est au mois de novembre, tu te souviens que tu avais séparé les eaux d'en haut et d'en bas, parce que là, il y a l'impression que tout est mélangé, il y a juste le brouillard. Non, mais je rigole. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regroupé les eaux, l'eau dans un endroit et la terre, puis ça a permis qu'il y ait de la terre, qu'il y ait des mers, qu'il y ait des lacs, qu'il y ait des îles. Et il a créé le magnifique lac de Neuchâtel. Bon, il est venu un peu plus tard, parce que c'était d'abord un plus grand lac. Mais voilà. Puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'ordre dans l'univers. Il a créé les luminaires. Dans l'univers, il a créé des luminaires, la lune, le soleil, les étoiles. Il y a eu des jours. Ensuite, il a créé les animaux pour qu'ils pullulent sur la terre. Il en a fait beaucoup. Il était tellement enthousiaste qu'il a créé des araignées, des scutigères, plein de choses. Et moi, quand on sera devant le Seigneur, il y en a, ils ont déjà préparé des questions au Seigneur. Ou bien, moi je vais dire, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ce genre d'animaux? Et après tout ça, il s'est dit, tiens, il faudrait quand même quelqu'un qui s'en occupe, il faudrait un jardinier pour tout ça. Et au sixième jour, il a créé l'être humain. Non, justement, si Dieu nous a créés, c'est pas parce qu'il avait besoin d'un paysagiste ou d'un gardien de zoo pour la terre qu'il venait de créer. Parce que moi, je crois que Dieu, il a tout créé à la perfection et la création allait aussi pouvoir se gérer à merveille. Mais Dieu a créé l'homme et la femme parce qu'il désirait des amis. Et la terre, c'est juste un magnifique jardin qu'il a créé, mais il désirait développer une amitié. Et en tant que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils, Saint-Esprit, il ne désirait pas juste regarder ce qu'il avait fait, puis voir comment ça tournait, et puis voir comment ça évoluait, comment les arbres, comment ça évoluait dans le sens, comment les arbres allaient grandir, comment les animaux allaient se multiplier. C'est pas ça, mais il voulait un ami, il voulait un confident. C'est pour ça qu'il nous a créé, qu'il a créé l'être humain. Ce n'était pas juste un élément de création de plus, mais il a créé l'homme et la femme à son image. À son image, ça signifie ce mot à sa ressemblance. C'est ça, ce mot hébreu demut, pour le prononcer en allemand, qui signifie similaire, selon sa forme, selon le modèle, comme à la ressemblance. Alors bien sûr, il reste Dieu, puis nous on est des simples créatures, mais ce Dieu Tout-Puissant, il nous a créés à sa ressemblance, comme lui, selon un modèle qui est lui. Mais il voulait des amis, des gens qui lui ressemblent. Si on veut être ses amis, on doit être un peu comme lui, qu'on puisse l'entendre, lui parler, qu'il y ait un échange, se confier. Et de cette relation-là, ensuite, il allait pouvoir nous parler pour qu'on puisse agir, qu'on puisse faire. Mais le but premier de Dieu, c'est l'être, et c'est pas le faire. C'est simplement qu'on soit avec lui. Puis ensuite, il a béni l'être humain, il leur a donné un mandat, on verra ça plus tard ou au prochain message. Mais cette étape, c'est vraiment important et pour moi, c'est le fondement de tout. Sinon, on tombe vite dans la mentalité que Dieu nous a créés pour être ses serviteurs, et puis pour gérer les animaux, puis pour faire ceci et cela. Et puis, bien sûr qu'il y a aussi ce mandat de gérer, de s'occuper de la terre, mais premièrement, son désir, c'est la relation. Et réaliser ça, ça va nous permettre d'être juste serein, d'être juste bien, et pas de se demander toujours à quoi je sers, quel est mon appel, même si Dieu veut nous faire rentrer dans quelque chose. Mais ça évite de se poser tout le temps ces questions, parce qu'avant le faire, il y a l'être, et cette destinée, c'est d'être l'ami et l'ami de Dieu. C'est développer cette amitié, cette relation. Et c'est de là que Dieu va planter en nous une mission, un appel, un désir, et qu'on va pouvoir agir avec lui, et non l'inverse. C'est pas « je t'appelle à ceci », et puis après, ce serait quand même bien qu'on devienne amis, qu'on se connaisse un peu, maintenant qu'on travaille ensemble. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais c'est de l'amitié que naît la vocation. C'est de l'amitié que naît la vocation. Et j'aime bien ce passage que j'avais pris au tout début, dans un des premiers messages qu'on a fait ici à l'Église Passion, il y a à peine plus d'une année, de Jean 15, qui disait « Je ne vous ai jamais appelé serviteur. » Parce qu'un maître, il ne se confie pas à ses serviteurs. Et les serviteurs ne comprennent pas toujours ce que fait le maître, dit Jean 15:15. Mais je vous appelle mes amis les plus intimes. Je vous appelle mes amis les plus intimes. Et ça continue où il est dit, car je vous révèle tout ce que j'ai entendu de mon Père. Vous imaginez, Jésus, il a envie de révéler tout ce que lui, il a entendu du Père. Il n'est pas en train de retenir, il a envie de répandre ces choses. Quelle amitié, quel privilège, qu'est-ce qui... Il y a du chemin, moi j'ai envie de plus. Je me dis, mais je ne suis pas sûr que j'ai entendu tout ce que Jésus a entendu du Père. Et de cette position-là, de cette amitié-là, va naître après le service, la mission, l'appel. Mais Dieu ne cherche pas premièrement ce que nous faisons. Il ne cherche même pas premièrement, on a vécu un bon temps vraiment d'adoration, il ne cherche pas premièrement notre adoration, mais il cherche nos cœurs. Il cherche simplement qui on est. L'être avant le faire. Et si on part dans le faire tout de suite, on va devenir des serviteurs, des ouvriers de Dieu. Alors c'est vrai que d'un aspect, on va aussi servir Dieu dans ce qu'on fait. Mais si on a cette mentalité de serviteur ou d'employé, on va, à un moment donné, on va attendre notre récompense. On va attendre qu'il nous bénisse en retour. On va attendre un salaire, comme tout ouvrier. Mais avec une relation, non pas de serviteur à maître, mais d'enfant à papa, d'ami à ami, la dynamique, elle va être tout autre. Et c'est tellement important de le réaliser. Que sans que nous fassions rien, on est aimé de Dieu. Je ne peux rien faire de plus pour qu'il m'aime plus. Mais à un moment donné, il va mettre en moi, justement, on va entendre son cœur et il va nous faire rentrer dans ce qu'il a envie de faire avec nous. Et on est dans notre destinée simplement en partageant l'amitié qu'il désire avec nous. Tout simplement. Et pour être ami, on dit toujours, il faut être deux. On ne peut pas être ami tout seul, il faut être deux. Mais ce n'est pas le faire. Ce n'est pas l'activité qui va nous faire partager cette amitié, mais simplement de venir à lui. Et en répondant à son désir d'amitié. Et ça a toujours été, dès le départ, comme ça, pas seulement avec Adam, Ève, mais on voit déjà dans Exode 33, où il est mis que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. C'est ce que Dieu désirait. Il voulait d'ailleurs, je ne vais pas parler de ça ce matin, il voulait parler à tout le peuple, mais ils ont juste laissé Moïse aller sur la montagne. Puis après, ça continue en disant, mais Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué ne sortait pas de la tente. Et lui aussi, il était amoureux de cette amitié avec le Seigneur, et il est resté proche de lui. Et on voit qu'ensuite, tant Moïse que Josué, c'est pas resté des inactifs, mais c'est des personnes qui ont fait des exploits, qui ont accompli de grandes choses. Mais c'en est dit qu'ils étaient juste amoureux de cette présence de Dieu. Moïse parlait à Dieu comme un ami. Puis Josué, il restait encore plus longtemps, il faisait des heures supplémentaires, il restait, il ne sortait pas de la tente. Cette tente où il rencontrait le Seigneur. Et le premier appel de ta vie, c'est pas ce que tu es appelé à faire, mais c'est qui tu es appelé à être. C'est qui tu es appelé à être. Ami, intime de Dieu, vis-à-vis, confident. Quelqu'un vers qui Dieu aime discuter. Je sais que c'est peut-être pas quelque chose de nouveau que je vous dis, mais je trouvais tellement important quand même de le dire avant d'aller plus loin, pour pas qu'on s'embarque tout de suite dans 1000 choses à faire. Mais vraiment pour moi, c'est la première chose. Si on vit juste ça sur notre séjour sur terre, c'est déjà notre destinée, c'est déjà ce que Dieu veut pour nous. Mais de cette amitié, de cette plénitude, de ce lieu de sécurité qu'on a en lui, va naître en nous quelque chose qui vibre. Va naître en nous quelque chose qui vibre. Notre appel. Et à un moment donné, ça va être peut-être le moment de se jeter à l'eau. Le moment aussi d'aller plus loin. Le premier appel de ta vie, je le redis en même temps que ça s'affiche, ce n'est pas ce que tu es appelé à faire, mais c'est qui tu es appelé à être. Et de cette amitié va naître quelque chose qui vibre en nous, et peut-être le moment de se lancer à l'eau. Dieu est notre ami, c'est pas notre employeur, il va pas juste nous demander une tâche, et précisément celle qui nous fait pas vibrer. Moi je me souviens quand j'ai commencé l'école biblique, c'était peut-être une croyance de l'époque, Dieu m'a fait ou nous a fait avancer, où il était dit, mais ne dis surtout pas que tu veux pas aller en Chine ou en Afrique, parce que pour sûr Dieu va t'y envoyer. Ça c'est, je l'ai entendu plein de fois, c'est pas juste quelque chose qu'on entendait, c'était ambiant quoi, c'était, oh, oulala, si on a un cœur ça, tant mieux, mais enfin, en tout cas pas dire ce qu'on n'avait pas envie de vivre, comme si Dieu allait t'appeler précisément dans ce qui ne te branche pas quoi. Bien sûr, il faut être disponible, on donne notre vie entièrement à Dieu, et on est prêt à le suivre là où il veut que j'aille, bien sûr, on ne veut pas juste lui demander de nous bénir dans nos hobbies, et puis « Seigneur béni, j'ai juste envie de faire ça ». Les disciples, il les a appelés, il leur a dit « Toi, viens et suis-moi », puis ils ont suivi. Mais en ayant expérimenté et développé l'être avec Dieu, il va nous faire rentrer sainement aussi dans le faire ou dans ce qu'il a envie qu'on fasse pour agir dans ce qu'il a déposé dans nos cœurs. En étant, comme on a vu avant, ses amis, ses proches de Dieu, il va déposer en nous ce qui vibre dans son cœur et dans nos cœurs, ce qui nous tient à cœur, ce qui lui tient à cœur. La synchronisation du battement du cœur. Ça tape dans son cœur, ça tape dans mon cœur. Et on va rentrer dans ce que lui a envie et dans ce que nous on a envie. Et ça va nous brancher aussi d'y aller et de le vivre. Et c'est un ministère de guérison puissant, T.L. Osborne, qui a dit la chose suivante. Tu es créé à l'image de Dieu pour lui ressembler, pour le manifester sous une forme humaine. Et Dieu, il est là par son esprit, on ne le voit pas forcément physiquement maintenant, mais il a envie qu'on puisse manifester qui il est d'une forme humaine, là où on est, là où on habite, où on est, pour qu'on puisse manifester Dieu sous une forme humaine. On lui ressemble, et ce qui va vibrer dans nos cœurs, ce sont des choses qui vibrent dans son cœur aussi. Et je crois que Dieu nous donne d'entrer dans les passions qu'on a, et il fait vibrer en nous, vraiment, ces choses-là. Et entrer dans son appel, quelque part, c'est se demander, mais qu'est-ce qui vibre dans mon cœur? Si j'ai passé beaucoup de temps avec Dieu, ça va aussi vibrer dans mon cœur. Et pour certains, par exemple, il y a différents exemples, je ne vais pas faire toute la panoplie, mais pour quelqu'un, ça peut être des réfugiés. J'entendais l'autre jour l'histoire d'un couple qui, ils sont partis quelques jours en amoureux, tout ailleurs, à visiter une ville, des bâtiments, puis ils se sont dit, mais finalement, on aurait peut-être mieux fait d'aller dans un centre de requérants d'asile. C'est là qu'on aurait été heureux pour rencontrer ces gens. Ça vibre tellement en eux qu'ils préféraient être dans ce qui vibre dans leur cœur que de visiter une ville. Enfin, c'est pour montrer, ce n'est pas mon appel, ce n'est pas non plus le tien. Mais c'est pour nous montrer qu'à un moment donné, Dieu il met. Ce n'est pas « ouais, va à cet endroit, va dans ce centre-là, va faire ceci ». Non, à un moment donné, il y a un désir, il y a quelque chose qui grandit dans le cœur. J'ai vu récemment un documentaire d'un Suisse qui a une passion pour l'Alaska. Alors ici en Suisse, j'ai l'impression que l'hiver, si j'ai bien compris, c'est une sorte de guide de montagne, de prof de ski. Enfin, il vit ça pendant l'hiver quand il y a de la neige ici. Et puis quand il n'y a plus trop de neige, il part chaque année quelques mois en Alaska. Et il a cette passion. Et il s'est donné les moyens. Mais la toute première fois, il est allé arpenter l'Alaska. Il voyait exactement où, dans quel genre d'endroit il voulait être. Et il a visité plein d'endroits jusqu'à ce qu'ils disent « Ah, ça, c'est un endroit qui ressemble au rêve que j'avais. C'est ça que j'ai envie. » Et il a construit une maison, un chalet. Et ça lui coûte un prix parce qu'il y va chaque année. Puis il laisse alors, sa femme, ses enfants. Mais il témoignait aussi sa famille, puis il disait, on aime, on sait qu'il est dans sa passion, c'est pour ça qu'il vit, donc on est heureux avec lui. Ils sont aussi allés une fois avec, une ou l'autre fois, sa femme aussi. Alors, ce n'est pas un exemple de vie de famille que je vous dis là, mais c'est juste pour parler de la passion. Donc voilà, il allait 2-3 mois par année. Mais pour vivre ça, il s'est donné les moyens. Il a construit son chalet à 250 km de la première ville et à 8 km de la plus proche maison. Il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité, peut-être comme bientôt chez nous. Non, je ne suis pas du tout apocalyptique. Et il explique qu'il avait un spray au poivre dans sa poche si tout à coup il croise un ours, ce qui lui arrivait. Ça lui permettait de l'éloigner sans lui faire de mal et sans se faire mal à lui-même aussi. Et on le voit partir à ski. Il allait sur un lac gelé, rempli de neige, avec derrière un traîneau, une luge. Et après, il faisait un trou et il pêchait de la truite. C'était son repas, quoi. Il avait une passion, il explique ça, ça vibre en lui. Et il a décidé de vivre en fonction de ce qui battait dans son cœur. Et c'est un truc de fou d'aller 3 mois par année à un endroit. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Il est loin de tout. Non, mais il a à cœur ça et il le vit. Et pour nous, c'est en passant du temps avec Dieu qu'il va faire grandir en nous aussi un désir et une passion qui va faire qu'à un moment donné, on va se mettre en avant aussi pour ce qui vibre en nous. Alors, il ne va pas nous demander juste de le suivre dans quelque chose qui ne vibre pas en nous, même s'il nous appelle quand même maintes fois à sortir de notre zone de confort, sinon on ne ferait peut-être pas grand-chose, mais d'aller aussi au-delà de nos limites. Mais je pense que dans notre vie de disciple, on va se donner aussi à un moment donné pour notre meilleur ami, pour notre Seigneur, pour notre papa. On ne va pas juste vouloir faire ce qui nous plaît puis lui demander qu'il soit avec nous. On va servir, on va le servir, mais parce qu'on est amis, parce qu'on est amis. Et on va se donner pour Dieu parce qu'il est notre papa, notre vie. C'est comme nous en tant que parents, on se donne pour nos enfants. Pas juste pour les petits sourires au tout début et puis pour quand on joue à cache-cache plus tard. Mais on va, à un moment donné, les parents, c'est... Bien sûr, il y a certains principes, il y a des valeurs, il y a des choses qui doivent bien fonctionner, je suis convaincu. Mais à un moment donné, quand on entend le téléphone sonner, où on a l'impression que nous, c'est le milieu de la nuit, mais pas forcément pour d'autres, puis c'est « papa, viens me chercher », alors que tu rêvais d'être parent, tu réalises que tu es devenu un chauffeur de taxi, et puis que ce n'était peut-être pas la destinée ou l'appel qui vibrait en premier dans ton cœur. Mais en fait, tu te donnes pour tes enfants. T'as envie qu'il lui arrive rien, donc tu vas le faire, c'est dans ton cœur, c'est là. On est parent et on sert son enfant par amour, pas parce qu'il faut. La même chose, on va vouloir servir notre papa, notre Dieu, parce qu'on l'aime. Même si tout à coup il nous réveille peut-être au milieu de la nuit pour prier ou pour agir, je ne sais pas. Même si ça ne vivrait peut-être pas quand on s'est couché dans notre cœur. Pour servir son corps, servir l'Église, servir le monde. Et se donner pour servir le royaume et pas juste bâtir notre propre destinée spirituelle qui nous plaît. Et lorsque Jésus appelle ses disciples, il leur dit, tiens, viens, suis-moi. Là, ils laissent leur entreprise de pêche, leurs activités. Ils ne connaissent même pas la suite. Nous, on connaît déjà la suite. Eux, ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Mais ils désirent juste servir Jésus parce qu'ils ont été touchés par lui. Il y a quelque chose qui vibre dans leur cœur. Mais globalement, je crois que Dieu va faire que son rêve, pour nous, devienne notre rêve. Que son rêve devienne ma passion, devienne mon désir. Et je vais pouvoir grandir là-dedans. Et pour découvrir son appel, ça commence d'avoir cette destinée commune, d'être un enfant de Dieu qui vient vers le Père, et c'est en posant ma tête sur son torse que je vais sentir ce qui vibre. C'est là que les choses vont s'imposer dans notre cœur. Et peut-être quelqu'un, c'est en lisant la parole de Dieu, il remarque qu'il aime découvrir des choses, des pépites, ça lui parle. C'est peut-être justement là-dedans que Dieu fait vibrer quelque chose, c'est la parole de Dieu. Alors donne-toi les moyens, continue de piocher, recherche d'autres traductions, le contexte, demande au Seigneur qu'est-ce qu'il veut te dire. Puis à un moment donné, tu sens que ces richesses, tu vas peut-être les partager dans ton groupe ressources ou autre, tu auras à cœur de le communiquer, soit aux enfants, dans les cours qu'on donne ou au-delà. Mais c'est quelque chose qui a commencé à vibrer, et puis tu as pioché, et puis tu as allé plus loin dedans. Pour un autre, tu as tellement à cœur ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui ne connaissent pas encore Dieu, qui n'ont pas cette relation et ce contact, de pouvoir dialoguer avec lui comme toi. Et tu vas aller là-dedans toujours plus, tu vas laisser toucher ton cœur. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être la convivialité. Tu aimes tellement honorer les gens qui se sentent à l'aise. Ben, développe en invitant des gens chez toi, en les honorant, ou bien peut-être aller ailleurs aussi, là où tu travailles, ou à l'église, dans l'accueil, peut-être au bar, ou je ne sais pas. Ou bien peut-être ce qui vibre dans ton cœur, c'est une éthique, c'est des valeurs, c'est l'excellence que tu vas pouvoir manifester dans l'entreprise où tu travailles, où tu es employé, où tu es patron, je ne sais pas, parce que tu as envie de manifester ces choses. C'est ça qui vibre dans ton cœur, et tu vas pouvoir aller dans ce sens-là. Et quand on réalise ce qui vibre en nous, à un moment donné, il va falloir aussi rentrer dans son appel, se donner les moyens d'aller de l'avant. C'est comme ce gars qui avait sa passion de l'Alaska. À un moment donné, il a quand même dû aller. Il ne pouvait pas juste regarder des diaporamas sur Internet. Il a dû prendre un billet, il a dû aller. Il ne savait pas tellement où il allait. Il a dû bâtir une maison. Vous voyez, quand il coupait un arbre, et l'immense arbre qui tombe, il a dû apprendre, il a dû se donner les moyens. Il a dû commencer petit, il a dû se tromper. Il a allé plus loin. Il s'est donné les moyens de vivre sa passion. C'est comme chaque sportif, c'est comme Federer. Nous, on voit juste les petites pointes de l'iceberg. Mais on ne s'imagine peut-être pas quand il était ado, quand ses copains allaient boire une bière le vendredi soir. Lui, peut-être jamais. Non, je ne peux pas. Je dois me préparer, j'ai un match demain. Ou quand il partait en vacances quelque part, lui disait non, moi j'ai un camp d'entraînement. Il y a plein de choses que nous, on n'a jamais vues. Les moyens qu'il s'est donnés, le prix qu'il a payé. On a juste vu ce qu'il faisait. C'est la même chose pour un footballeur, un athlète qui a payé le prix, qui s'est donné les moyens pour vivre cette passion et aller au-delà. Mais ce prix, c'est un prix pour quelque chose où il y a du plaisir, où il y a une passion, parce que Dieu a déposé ça dans nos cœurs, puis ça vibre aussi, parce que ça vibre dans le cœur de Dieu. Et c'est Martin Luther King qui a dit, et souvent aujourd'hui on le considère à juste titre comme une célébrité, mais en fait il faut quand même savoir que c'était un jeune pasteur qui n'était pas encore si connu au départ et qui a commencé à dire des choses alors qu'il était sûrement méprisé, pas entendu et pas écouté, et qui devient le plus jeune prix Nobel de la paix. En 1964, il avait 35 ans et il disait des choses qui étaient à contre-courant total à 35 ans. Et c'est 4 ans plus tard, à même pas 40 ans, qu'il a été assassiné. Il a donné sa vie pour une cause, son appel pour changer l'humanité. Et il a dit « Utilise-moi, Dieu ». Montre-moi comment prendre qui je suis. Comment faire avec qui je suis, ma personne, qui je veux être et ce que je peux faire et l'utiliser pour un but plus grand que moi. Elle avait une disponibilité qui va au-delà du succès personnel. Il y a dans les librairies, il y a maintenant des centaines de livres sur le développement personnel et la réussite. Mais à un moment donné, on va vouloir pas juste réussir notre vie, mais vibrer dans ce que Dieu désire, qui est peut-être plus grand que nous, et s'engager dans ce chemin. Un chemin utile, parce que si ma passion, c'est la collection des nains de jardin, ben c'est une passion, mais ça ne va peut-être pas être vraiment utile pour le royaume de Dieu. Et j'aime beaucoup Éphésiens 4, 1. Et je ne vous visais pas personnellement, je n'ai pas vu votre jardin. Dans Éphésiens 4, dans la traduction The Message, il est dit, que je traduis en français, il a dit « Je veux que vous sortiez et que vous marchiez, ou mieux, que vous couriez sur le chemin que Dieu vous a appelé à parcourir. Je ne veux qu'aucun d'entre vous reste assis sur ses mains. Je ne veux pas que quelqu'un se promène sur un chemin qui mène nulle part. » Qu'on ne soit pas sur un chemin qui mène nulle part, assis sur nos mains, donc à rien faire quelque part. Mais il nous encourage à marcher, même à courir sur le chemin que Dieu a prévu pour nous. Et ce chemin, on le découvre quand on passe du temps avec lui, quand on capte ce qui vibre dans son cœur. Et Dieu nous appelle ce matin à nous lever, à marcher, à courir même sur ce chemin. Et vous savez, Dieu nous guide pas à pas. Nous, des fois, on aimerait la feuille de route, et puis déjà, notre vie de A à Z, voilà, tu vas faire ça, et tu vivras finalement ça, puis on est d'accord d'y aller. Mais moi, comme je connais le Seigneur, il aime bien toujours nous dire les choses un peu au fur et à mesure. Et puis, on se lance et on va de l'avant et ça grandit. Et il nous fait avancer de gloire en gloire, de pas en pas, de révélation en révélation. On entre dans ce qui vibre. Et ce que Dieu désire pour toi, pour moi, pour l'Église, pour chacun, pour cette région, pour le monde, c'est que chacun finalement entre dans ce pourquoi il est né, dans ce pourquoi il existe. Et qu'on puisse poursuivre cet appel sans s'arrêter en route. Et j'ai encore quelques pensées. Par exemple, il a béni Abraham. De génération en génération, il est devenu ce père de la foi, le père d'une famille, d'un peuple. Il lui a promis une bénédiction, mais aussi un pays, une descendance. C'est vraiment une promesse folle. Quelle destinée, vraiment. On voit ça dans Genèse 12. Mais c'est intéressant de prendre juste le chapitre avant. Dans Genèse 11, où il est parlé de Terach, qui est le papa d'Abraham, qui prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, et sa belle-fille Sarai, le fils de son fils, la femme de son fils Abraham. Et ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais, arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Donc, leur but, c'était d'aller dans le pays de Canaan et ils se sont arrêtés en cours de route. Et moi, je me dis, mais il y avait sûrement déjà cet appel sur cette famille ou sur cet homme, sur Terach. Il avait certainement cet appel déjà pour le pays promis. C'est pour ça qu'il quitte Our en Chaldée, qui était une ville avec une civilisation qui était avancée, pour aller tout ailleurs où il ne sait pas trop, pour s'emparer d'un nouveau pays. Et il s'arrête en cours de route. Il y avait cet appel déjà sur cet homme, mais ils sont installés là. Et il n'est pas rentré dans le pays de Canaan, Terach, sauf erreur. Il part avec toute sa famille. Il répond à l'appel. Il quitte cet endroit, mais il s'installe. Et là, Terach, il reste scotché là. On ne sait pas pourquoi. Peut-être le confort, peut-être une femme, peut-être des amis, un travail, pris par ses enfants, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il est resté là, puis qu'il n'est jamais allé plus loin. Et que c'est à un moment donné, c'est Abraham qui quitte Charan pour aller dans le pays de Canaan. Et Terach, on n'en entend pas parler. Hein. On parle du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, pas le Dieu de Terach, Abraham, Isaac. Abraham a entendu l'appel et il a quitté. Et il est devenu père d'une multitude. Et quand tu as un appel, quand tu as un but, ne t'arrête pas, ne t'installe pas dans une étape. C'est vite fait de s'installer tout à coup en cours de route. Mais Dieu a agi, il a œuvré pour que le peuple entier rentre dans sa destinée. Et le pays de Canaan, pourtant il y avait des géants, des villes, mais c'était quand même l'appel, c'était le lieu, c'était la promesse, c'était là que le peuple allait s'établir bien plus loin. Et là je passe un peu. Et je crois que ce que Dieu désire, c'est vraiment qu'on puisse vivre sa destinée, son appel, pour s'établir au bon endroit. Et quand on est au bon endroit, le fruit, il suit. Il suit. Par exemple, le peuple, ils ont eu des épreuves. Quand Moïse a sorti le peuple d'Égypte, ils ont eu des épreuves. À un moment donné, ils sortent d'Égypte, ils quittent aussi tout un confort où ils étaient. Et ils arrivent dans un cul-de-sac, il y a la mer devant, il y a le pharaon derrière. Et on pourrait se dire, mais pourquoi une épreuve pareille ? Mais en fait, nous, on aimerait bien des fois esquiver les épreuves, mais en étant vainqueur de cette épreuve-là, ça a permis de régler le problème, parce que finalement, ils ont été totalement libérés de ce passé qui les poursuivait encore. Alors que sinon, peut-être ce passé, ben là, c'était l'armée de Pharaon, aurait toujours été là à leur poursuite. Et cette épreuve d'arriver devant un cul-de-sac, devant une mer infranchissable que Dieu a ouverte, ça a permis d'engloutir le passé et de passer plus loin. Et ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés que ce n'est pas l'appel ou la promesse que Dieu a pour toi. Mais des fois, ça permet d'aller au-delà, d'avoir des victoires et de passer à autre chose. Quand on vit dans ce pourquoi on est né, il n'y a pas de prix. Et là, je vais avancer un coup. Voilà. Le psaume 119 nous dit « Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur et fais-moi vivre dans ta voie. » C'est-à-dire, fais-moi vivre dans l'appel que tu as pour moi. Et pour terminer, j'aimerais prendre un passage, je vais terminer sur cette histoire-là, dans Matthieu 21, où c'est Jésus qui va dans le temple et il chasse ceux qui vendaient pas mal de choses dans le temple. Il renverse les tables des changeurs de monnaie, les sièges des vendeurs de pigeons. Et il est écrit « Mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. » Et ce passage, on l'utilise souvent pour parler de la colère de Jésus. En fait, moi, quand je lis les évangiles et tous les évangiles, je ne vois même pas Jésus en colère. Il n'est pas mis qu'il a eu un excès de colère. Il est juste dit qu'il a dit les choses. Pour moi, je pense qu'il ne les a pas dit en chuchotant. Il a été ferme, ça je veux bien le croire. Mais pour moi, ce n'était pas juste une réaction de Jésus. C'était une action. C'était une action de Jésus qui avait un but. Non pas premièrement de renverser des tables, de monnaie ou de vendeurs de pigeons, mais il n'était pas en train de détruire. Il était en train de construire. Son but, c'était de restaurer sa maison, de restaurer l'appel du temple, l'appel de sa maison. Et c'est pour ça qu'il accompagne cet acte de parole quand il dit « Mon temple sera appelé une maison de prière. » Mon temple sera appelé une maison de prière. Et c'est ce que Jésus a fait physiquement, dans le temple physique. On connaît aussi la suite de l'histoire. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Le temple, c'est quoi? C'est qui? C'est nous, c'est toi, c'est moi le temple. Nous sommes ce temple. Et la destinée du temple, c'est d'être une maison de prière. La suite du passage de Jésus est très intéressante parce qu'il vient de chasser les vendeurs du temple en proclamant que c'est une maison de prière. Et il a à peine désencombré le temple. Et souvent, on s'arrête ici à l'histoire, mais ça continue où il est dit que voilà des aveugles et des boiteux qui entrent dans le temple. Et moi, je suis convaincu que lorsqu'on commence à désencombrer le temple, l'église ou le temple, ma vie, et pas forcément de choses mauvaises, mais des choses qui remplissent simplement le temple, ça va faire de la place pour que notre vie commence à vivre et à entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Et une fois le temple désencombré, la place laissée, Dieu va pouvoir agir, même de façon surnaturelle, et on va pouvoir commencer à rentrer dans ce qu'il a prévu. Au tout début, on disait des fois « arrêtons peut-être de parler » ou « écoutons juste Dieu ». C'est aussi ça, faire de l'espace, faire de la place. Les aveugles et les boiteux, ils viennent juste s'approcher de Jésus alors qu'il a juste fait de la place. Et c'est le miraculeux qui prend place. Et voilà la fin de l'histoire des marchands du temple. Ça ne finit pas avec les gens qui ramassent leurs pièces de monnaie au sol, mais ça se termine avec des gens qui sont guéris. Et par la restauration de Jésus, le sens du temple, le but du temple, la destinée du temple, à ce moment-là, elle est de nouveau mise dans la bonne direction. Et c'est ce que Dieu désire faire pour ma vie, pour ta vie. Que ma vie soit un temple, que ça ne soit pas encombré, pas de mauvaises choses. Parce qu'il faut savoir que les pigeons, c'est Dieu qui les a créés. Hein. Ce n'est pas des mauvaises choses. Ils étaient même avec sur l'arche. Hein. C'est le même mot pigeon que colombe. Donc ils étaient aussi là avec Noé et toute la clique et les araignées. Ils étaient aussi là dans l'arche. Hein. Et l'argent, Dieu, il n'a rien contre l'argent. Avec ses disciples, ils avaient une caisse, il y avait un caissier, il a mis qu'il payait ses impôts. Il n'a pas un souci qu'il y ait de l'argent ou même qu'il y ait des pigeons. Ce n'était même pas parce qu'il était allergique à ça dans le temple. Mais ce qu'il désirait, c'est que le temple rentre de nouveau dans son vrai appel. Et pour ça, il fallait faire de la place pour que son temple soit une maison de prière. Et des fois, dans nos vies, il y a des choses qui ne sont pas des mauvaises choses, qui sont très bonnes. Des choses que Dieu a créées, qu'il a aimé créer. Mais peut-être que ça prend juste la place et il faut faire de l'espace pour que Dieu puisse nous faire rentrer vraiment comme le temple, rentrer dans l'appel et la destinée qu'il a véritablement pour nous, redécouvrir la destinée. Et peut-être qu'on va ainsi aussi pouvoir rentrer nous dans ce qui vibre dans nos cœurs ou dans le miraculeux ou dans le surnaturel, parce que ce qui encombre n'est pas forcément mauvais. Et pour terminer, pour conclure, et le groupe peut déjà de louange venir, parce que je vais bientôt prier. On voit dans Hébreux 12 qu'il est dit « C'est pourquoi nous qui sommes entourés d'une foule de témoins, d'une nuée de témoins, rejetons donc nous aussi tout ce qui nous empêche d'avancer et rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. » Et une autre version nous dit « Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche. » Et ce n'est pas forcément des choses mauvaises, mais c'est des choses qui nous empêchent peut-être de courir sur ce chemin qu'on a vu avant, ce chemin de notre appel, ce chemin que Dieu a envie qu'on vive. Et je crois que ce matin, ce que Dieu désire avant toute chose, avant de nous dire « ça serait bien que tu aies enfin » ou « que tu fasses ceci ou cela », ce qu'il désire, c'est vraiment qu'on puisse réaliser le premier appel. C'est notre destinée, c'est d'être un proche, une proche, un ami, une amie de Dieu. Qu'on puisse être cet enfant qui va sur les genoux du Père, où il n'y a rien besoin de faire, mais juste de poser sa tête contre lui. Et c'est là qu'il va faire vibrer dans ton cœur ce qu'il a envie à un moment donné que tu fasses de plus spécifique, qui n'est peut-être pas la même chose que la personne qui est assise à côté de toi ce matin, parce qu'il a une destinée particulière pour ta vie, Même si on est tous appelés à être ses enfants, ses amis, il a une destinée particulière pour chacun. Et ça, c'est alors que tu vas le connaître, alors qu'il te parle, alors que tu l'entends, que tu vas découvrir, entendre sa voix, reconnaître sa voix. Et le Seigneur, c'est ce qu'il désire vraiment, placer dans ton cœur quelque chose qui vibre. Et tu le sens, et peut-être tu le sens déjà depuis longtemps. Mais à un moment donné, comme ce gars qui est parti en Alaska, qui s'est donné les moyens, qui a payé le prix de dire au revoir à ses enfants pour 2 mois, et après il revenait, peut-être qu'il va aussi te dire, mais peut-être, alors faut, t'as à cœur la parole alors, puise-la, lis des livres, fais une formation, ou autre, ou je ne sais pas, ou pour d'autres domaines, t'as à cœur les gens qui ne me connaissent pas. Alors prie pour ça, bouge, va parler en mon nom vers ceux qui ne le connaissent pas. Essaye de capter qu'est-ce qu'il désire pour ta vie. Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses simplement nous toucher, parce que ce qu'on a envie, c'est pas de prendre une ligne de plus dans ce qu'il faut faire dans notre vie. Il y a déjà bien assez de choses à faire. Mais justement, on veut peut-être désencombrer la liste des choses à faire pour simplement être avec toi et recevoir ton cœur. Et je te prie ce matin que tu nous fasses entendre, comme je disais au tout début, une fraction du battement de ton cœur que tu as d'une façon générale pour ton Église, pour nos vies, pour cette région, mais aussi comment ton cœur bat. Qu'est-ce que tu avais imaginé quand tu as permis qu'on naisse? Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Et Seigneur, on n'a pas envie de foncer tête baissée, mais révèle-nous ton cœur. Fais grandir ça en nous, que ça brûle comme une passion où on a envie d'aller de l'avant. Et je te prie, Seigneur, viens nous toucher ce matin. Viens nous toucher, viens susciter des vocations. On est tous appelés, Seigneur, à communiquer ta vie, à proclamer qui tu es, à avoir des valeurs, à transmettre ceci. Peut-être chacun dans un cadre, un endroit différent. Mais je te prie, viens susciter, Seigneur, un appel dans nos cœurs. Tu cherches des hommes, des femmes qui brillent, qui communiquent ta vie. Et Seigneur, moi j'ai envie de m'arrêter et de poser ma tête contre ton torse. J'ai envie d'entendre ton cœur. Alléluia.